jour de l'ouverture du Salon de l'agriculture à Paris, le monde rural maintient la pression sur le gouvernement et multiplie les actions. Comme ici à Castelsarrasin dans le Tarn-et-Garonne. Du lisier a été déversé devant cette barrière de péage. L'autoroute A62 fermée. Les agriculteurs ne sont pas satisfaits des annonces du Premier ministre.
Le projet de loi d'orientation agricole reconnaît noir sur blanc dans la loi notre objectif de souveraineté agricole et alimentaire et place l'agriculture au rang des intérêts fondamentaux de la nation au même titre que notre sécurité ou notre défense nationale.
Mais où en est aujourd'hui notre souveraineté alimentaire? Serait-elle menacée? La France demeure la première puissance agricole européenne. Cependant, notre dépendance aux importations se creuse pour certains produits. Un tiers des fruits et légumes que nous consommons vient de l'étranger. Un poulet sur deux est importé. Et la production laitière commence à montrer des signes de faiblesse. Moins 3% de lait collecté en 2023. Des éleveurs abandonnent chaque année une activité plus contraignante que rémunératrice. La filière surveille le gouvernement comme le lait sur le feu.
C'est un principe de vase communicant. On a choisi de construire des politiques publiques où on demande de s'orienter vers des cultures qu'on va exporter. La même surface ne peut pas servir à porter des cultures qu'on va exporter et satisfaire nos besoins locaux. Donc plus on va chercher à exporter et plus on va dépendre pour certaines productions de l'importation des produits
qu'on ne produit pas, même si on
ne produit plus. Oui. Mais c'est parce qu'on a fait le choix d'une logique exportatrice. C'est-à-dire que la même surface ne peut pas importer des produits qu'on va exporter et produire et les produits qu'on va consommer localement. Et s'invite au débat la volonté aussi de mobiliser des surfaces agricoles sur la production d'énergie qui viennent en concurrence de la production alimentaire et donc qui fait qu'on accentue nos importations.
On a donné la priorité d'abord à l'Espagne dans la fourniture du marché domestique, dans des conditions écologiques qui sont discutables, parce que c'était moins cher, parce qu'ils ont aussi des avantages comparatifs par rapport à nous. Et puis on s'est rendu compte qu'en fait ça ne suffisait pas, et aujourd'hui on voit la montée en puissance du Maroc en fait, dans la fourniture du marché domestique de la tomate. Donc des exemples comme ça, il y en a beaucoup. Et c'est très difficile, une fois qu'on commence le décrochage, très difficile.
De revenir en arrière.
Très difficile.
C'est-à-dire réimporter une filière.
Écraser leur coût fixe, avec un coût de la main-d'œuvre plus faible.
Ils ont des fermes immenses.
Et donc, ils ont des fermes pas forcément immenses, mais en tout cas, ils ont des meilleurs coûts de production. Et donc, on est devenu dépendant d'eux, et de manière colossale, à l'heure même où l'Ukraine tape à la porte, avec des produits qui seront encore plus compétitifs.
Tout à fait. Le libre-échange appliqué à l'agriculture, ça veut dire qu'il y a un peu des spécialités mondiales qui se font. Il y a des zones géographiques qui sont spécialisées, par exemple, dans la production de protéagineux, notamment le soja, ça va être plutôt les Amériques. Et nous, en Europe, on est extrêmement dépendant de l'importation de soja. Pour la France, c'est l'équivalent de 4 millions de tonnes d'importations par an pour nourrir nos animaux d'élevage. Et par contre, en retour, on va être capable, nous, d'exporter des produits laitiers, de la poudre de lait, grâce à des vaches qui auront été nourries à ce soja importé. Donc en fait, on fait un choix de ne pas être en situation d'autosuffisance sur n'importe quel territoire du monde, mais plutôt d'avoir des flux importants dans lesquels on considère qu'il y a des avantages compétitifs.
Donc il y a une interdépendance. C'est une sorte d'interdépendance que vous décrivez là.
Oui, pour certains. Alors, tout dépend des pays qu'on considère. Ouais. Dans l'Union européenne, il y a clairement une interdépendance parce qu'on exporte et on importe beaucoup. Il y a d'autres pays dans lesquels ils sont clairement, eux, dans une situation de dépendance pure et simple à des exportations qui viennent d'ailleurs.
La définition de la souveraineté, personne ne peut plus y aller de sa propre définition, chacun dans son coin. La souveraineté alimentaire, elle a été clairement définie par le plus grand syndicat paysan du monde qui s'appelle la Via Campesina, et sa définition a été reprise par l'ONU. Et donc, c'est à cette définition qu'on doit se ranger. C'est dire produire ici, je le fais bref, produire ici pour nourrir ici, produire là-bas pour nourrir là-bas. C'est ça l'enjeu. Et bien sûr qu'on aura des produits dont on aura toujours besoin de commerce mondial. Moi, j'adore le cacao, par exemple, et on ne sait pas en produire en Europe. Donc, sur cela, il n'y a pas de souci.
Ça veut dire que la fraise,
fraise, il faut qu'on la relocalise. Mais c'est ce qu'a dit M. Châtelier. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a déconstruit des filières qui va être compliqué de reconstruire parce qu'on est rentré dans la logique de spécialisation indiqué Aurélie. Et donc, du coup, on a vraiment créé toutes les conditions pour s'éloigner de la souveraineté alimentaire. Et quand j'entends le ministre de l'Agriculture parler de souveraineté alimentaire alors qu'il n'a pas un échantillon sur lui et qu'il n'a même pas consulté la définition intrinsèque de la souveraineté alimentaire, moi, ça me fait bonder protéines. En 1992, on a signé un accord qui s'appelle l'accord de Blairhouse, où l'Europe de sa propre initiative, a décidé de limiter sa production en protéines à 5,2 millions d'hectares. C'est versé aujourd'hui dans les accords de l'OMC. Eh bien, si on veut travailler sur la souveraineté alimentaire en protéines, il faut commencer par le début, c'est-à-dire aller dénoncer cette limitation de surface de 5,2 millions d'hectares grâce à l'accord de Bleyras, parce qu'en vérité, si on veut être autonome en protéines en Europe, il faut porter les surfaces en protéines entre 15 et 18 millions d'hectares.
Vincent, territoire agricole, on a beaucoup de surfaces agricoles, oui, beaucoup plus que les Allemands. On a 10 millions d'hectares de plus que les Allemands, qui sont à 85 millions d'habitants. Donc on est bien doté en surface agricole. On est un grand pays, on a des bons rendements. Non, c'est la question de choix de spécialisation. Il y a des produits pour lesquels on ne les produira jamais chez nous. Par exemple, le riz, qu'on ne cite pas souvent en exemple.
Oui.
On n'en a pas du tout, à part en Camargue. On n'a rien, du tout.
Mais on pourrait le faire.
On pourrait le faire, mais
on a aucun intérêt.
On a deux dossiers avant, je pense. Hein. Mais non, je pense qu'il y a des filières où il faut reproduire davantage. La filière du poulet est un très bon exemple. Aujourd'hui, il manque à peu près 20% de viande de volaille en France, puisqu'on en exporte en plus. Hein. On en importe, mais on en exporte. Et on vend 20%. Est-ce que c'est raisonnable ? Non. Est-ce qu'il faut produire davantage ? Oui. Est-ce que pour autant, il faut choisir des modèles productifs qui serait l'imitation de l'Ukraine ? La réponse est non.
Oui, donc des modèles. Par contre, pour moi, il y a vraiment une absence de prise en compte des réalités physiques. La vraie question à se poser, c'est peut-on seulement produire plus en France ? Or, vraisemblablement, c'est plutôt pas le cas. Sur les grandes cultures, qui occupent quand même une bonne partie de notre surface agricole, eh bien, premièrement, nous sommes quasiment au maximum du potentiel de rendement de nos sols. Mmh. On a très peu de possibilités de faire plus, ce qui ne serait pas du tout le cas dans d'autres pays du monde. En Afrique, il y a des endroits où on peut augmenter potentiellement de 60%. Là, je parle bien de la France métropolitaine. Et deuxièmement, on vit dans un environnement qui est soumis d'ores et déjà aux effets du changement climatique, avec des aléas qui vont être de plus en plus fréquents et de plus en plus fort, la capacité à avoir en moyenne des rendements qui augmentent est là aussi très peu vraisemblable. Et là, c'était pour les grandes cultures, mais ces grandes cultures, outre le fait qu'elles nous nourrissent humains directement, elles sont aussi à la base de l'alimentation animale, notamment pour les cheptels porcins et de volailles. Et si on n'a pas plus de grandes cultures, et on ne va pas non plus pouvoir augmenter nos cheptels de monogastriques, à moins d'importer l'alimentation, mais dans ce cas-là, on n'est plus dans une situation d'améliorer notre souveraineté.
Pardon, on a des rapports de la Commission européenne qui nous disent que, effectivement, la productivité de la ferme Europe est en train de décroître. C'est pas à cause des normes environnementales, on n'a pas commencé. C'est pas à cause de la réduction des pesticides, on n'a pas commencé. C'est pas à cause de la réduction des engrais de synthèse, on n'a pas commencé.
Il y a de la jachère, ils sont obligés à déterminer.
La jachère, je vais vous en parler. C'est précisément ce que vient de dire Aurélie, c'est le dérèglement climatique, l'effondrement de la biodiversité qui est en train de menacer la productivité de la ferme Europe. C'est pas la suppression de tel ou tel pesticide.
C'est pas les normes européennes.
Les 4% de jachère, parlons-en, sont éligibles aux 4% de jachère, les murets, les mares, les bosquets, les haies. Donc des surfaces qu'on ne peut pas remettre en production, mais qui en revanche sont des réservoirs de biodiversité. Et pour aller féconder le colza ou le tournesol que va acheter Avril Sophie Proteol, il va falloir des pollinisateurs pour aller les polliniser. Et donc on a besoin de ces 4% de jachère. Et on a fait une étude très, très prospective qui montre que si on lâche le lest sur les 4% de jachère, en vérité, on a un gain de surface supplémentaire de 0,5%. Mais c'est des discours pour essayer de détourner la responsabilité de ceux qui sont vraiment responsables de la crise aujourd'hui, c'est-à-dire ceux qui sont au pouvoir depuis 30 ans. Et pour essayer de se servir comme punching ball, victime expiatoire, les écologistes. Mais les écologistes, depuis quand ils sont au pouvoir ? Moi, faudrait que vous me rappeliez. Oui. Depuis quand les écologistes sont au pouvoir pour avoir su imposer tout ça ?
Pour faire advenir la transition agroécologique de manière juste, il faut accepter que c'est complexe, c'est une évolution systémique et qu'il faut agir sur tous les leviers en même temps. Et donc, celui du renouvellement générationnel fait partie de ceux sur lesquels il faut agir. Et puis, tout à l'heure, on parlait du déficit de la France sur les fruits et légumes, par exemple.
On apporte jusqu'à 70% de fruits.
Voilà. Les filières fruits et légumes, elles ont cet énorme avantage qu'elles sont très gourmandes en emploi. Et donc, plus on va installer de jeunes qui ont envie de s'installer en maraîchage ou en arboriculture, plus on va pouvoir réaugmenter le nombre d'agriculteurs parce que c'est plus facile d'avoir beaucoup d'agriculteurs sur ces filières-là que par exemple en grande culture.
Comment est-ce qu'on rend attractif ?
La question du revenu. Et ils ont raison. On n'attirera pas des gens si on n'a pas des revenus décents et des revenus qui sont un peu stables et prévisibles pour que des jeunes puissent se projeter sur le long terme.
On ne fait pas assez pour les jeunes. On ne fait pas assez, notamment parce que les taux d'intérêt, on n'a pas évoqué dans le reportage, mais les taux d'intérêt ont considérablement augmenté. Donc le coût des reprises augmente. Donc pour les jeunes qui ne sont pas issus du monde agricole, le ticket d'entrée devient quand même un peu problématique, comme vous l'avez bien souligné. Et donc, on ne fait pas assez dans la politique agricole commune pour les jeunes. On ne fait pas assez sur les aides à l'installation pour les jeunes. Et on a un désir d'installation. Il ne faut pas non plus laisser entendre qu'il n'y a pas de candidats.
Non, là, c'est un métier,
il y a beaucoup de jeunes qui veulent faire ce métier d'agriculteur qui a aussi beaucoup de qualités hein, reconnues par cette nouvelle génération. Et donc, la question, c'est comment on leur donne la possibilité d'entrer dans ce métier. Et puis, il y a des belles réussites. Hein. Hors cadre familial aussi, il y a des belles réussites. Il y a des beaux exemples d'installation. Il n'y a pas que de la contrainte et qu'une inaccessibilité au métier.
Et il y a beaucoup on oublie ou on occulte complètement comment est-ce qu'on arrive à des tarifs de produits alimentaires aussi peu chers dans les grandes enseignes comme Lidl, par exemple. C'est que derrière ces prix pas chers, il y a des politiques publiques qui sont supportées par tous les contribuables pour réparer les dégâts d'une agriculture qui dévaste des ressources vitales comme l'air qu'on respire, l'eau qu'on boit, la biodiversité, et qui font qu'on a affaire à une concurrence déloyale. Eh bien, la vraie audace, c'est pas un prix unique, c'est de rattraper cette enveloppe publique qui est extrêmement colossale, qui est extrêmement importante, sans rajouter un centime de fiscalité, et de rémunérer les paysans qui font bien, qui prennent soin de l'intérêt commun, qui prennent soin de la qualité de l'air, de la qualité de l'eau, donc de notre santé, de la biodiversité et du climat. Et donc, quand on aura ce socle de revenus-là, on pourra mettre en marché des produits de bonne qualité pour tous. Et du coup, ça donne de la visibilité aussi, et ça revient sur le parcours à l'installation. Moi, j'ai un fils qui s'est installé pile il y a 3 ans, là, hors cadre familial. C'est un vrai parcours du combattant, on est d'accord. Mais ce qui réclame ces jeunes, c'est de la visibilité sur le revenu et les primes à l'installation. C'est ce que j'appelle le piège à mouche qu'on donne juste la première année, mais qui donne aucune visibilité dans la durée. Eh bien, rémunérons les paysans, c'est ça le vrai enjeu. Rémunérons-les aussi parce qu'ils prennent soin de l'intérêt commun. Et vous allez voir que ce débat devient un faux débat.
Aurélie Cattard. La question qui est réclamée par la profession agricole, c'est d'éviter les distorsions de concurrence. Et les distorsions de concurrence, elles nous viennent en premier lieu du marché commun, c'est-à-dire d'autres États membres de l'Union européenne, puisque c'est avec eux que se font la majorité de nos échanges commerciaux agricoles. Et donc pour ça, ça nous invite à harmoniser par le haut les règles sociales et environnementales qui sont en vigueur dans l'Union européenne. Alors pour l'instant, la méthode qui avait été proposée dont le pacte vert n'a pas été bien comprise, bien appropriée, bien expliquée à la profession agricole. Il faut sans doute complètement la revoir. Mais par contre, les velléités d'harmonisation par le haut demeurent un outil indispensable pour protéger les agriculteurs français.
Totalement quand même.
Oui, mais...
on a pratiqué beaucoup de choses.
Oui, mais pour les produits transformés.
Par contre,
c'est fait en France, mais d'où ça vient? Ça vient pas toujours de France.
L'enjeu
c'est les produits transformés.
C'est les produits à transformer, c'est de mettre la pression sur l'appareil de distribution qu'on appelle la restauration hors domicile, pour qu'elle joue un peu plus le jeu de la transparence qu'on n'a pas. Je fais le pari qu'il y a beaucoup de Français qui accepteraient de dépenser un peu plus pour les produits français si on leur laissait la possibilité de choisir en bonne
Même si ça coûte plus cher.
Même si ça coûte un petit
quelques
peu plus cher.
Le patron fait la démonstration que même un peu plus cher, les consommateurs, s'ils ont la garantie que la rémunération, enfin le prix payé supplémentaire vient rémunérer le producteur, ils sont prêts à le consentir. L'expérience de C'est qui le patron est la probante démonstration.